Vous êtes avec SBS French.
Europa Voice numéro 34 déjà, et nous décortiquons la politique européenne et le monde de la politique européenne avec Nathanaël Bloch. Bonjour Nathanaël.
Bonjour Christophe.
34 semaines hein, déjà, 34 épisodes. Et on est toujours en train de parler du Brexit, mais on va pas commencer avec le Brexit, on va commencer bien entendu avec la visite en Australie du ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Jean-Yves Le Drian, qui était là, vous l'avez vu hier soir.
Tout à fait Christophe, Jean-Yves Le Drian est revenu pour la sixième fois en Australie.
Il a dit qu'il aime l'Australie. Hein.
Il aime l'Australie et puis il y a fait des choses quand même assez importantes dans le cadre de la relation franco-australienne, puisque c'est lui véritablement qui a été à la manœuvre des négociations de la vente de sous-marins et du contrat du siècle, comme il a été appelé il y a quelques mois.
Il avait déjà vendu des Rafales sous Hollande. Ça devient un peu le super VRP des produits militaires français. Hein.
Ah, c'est un super VRP du savoir-faire, j'allais dire, plutôt du savoir-faire français, parce que il faut le rappeler pour nos auditeurs, ce qui va avec la vente de sous-marins, c'est pas simplement le produit, mais c'est des échanges de savoir-faire technologique, des échanges universitaires, des coopérations scientifiques. Donc véritablement, et c'est pour ça qu'on parle de partenariat stratégique, c'est qu'en fait, cette vente de sous-marins, elle s'inscrit dans une durée beaucoup plus longue que les quelques mois de négociation, elle s'inscrit pour les dizaines d'années à venir avec, encore une fois, des échanges d'hommes, des personnes qui vont venir s'installer de France, de Cherbourg, du siège de Naval en Australie du Sud et inversement. Et puis, ça va développer aussi, j'allais dire, du travail pour tout un écosystème, c'est-à-dire les sous-traitants des sous-marins, ceux qui vont fabriquer les technologies. Donc voilà, effectivement, Jean-Yves Le Drian est un super VRP, mais il l'a rappelé hier soir quand il s'est rendu donc d'abord dans sa visite officielle à Melbourne et puis après à Adélaïde en Australie méridionale. Il y a deux choses en fait qui l'intéressaient. Il y avait d'abord effectivement ce contrat du siècle, ce partenariat stratégique franco-australien. Il faut le rappeler hein, pour nos auditeurs, la relation franco-australienne ne s'est jamais aussi bien portée, c'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, on est passé des insultes à la suite des essais nucléaires dans le Pacifique au grand amour.
Alors je vais faire l'avocat du diable au niveau ambassade, etc. On aime bien le dire quand même, hein, que les relations européennes, les relations franco-australiennes ne sont jamais aussi bien portées. C'est un peu la marque de fabrique quand même en ce moment.
Oui, mais je crois qu'on signale pas assez les trains qui arrivent à l'heure, Christophe.
C'est vrai.
Et là, en l'occurrence, c'est pas un train, c'est un avion.
Allez, je fais juste l'avocat du diable, c'est bon.
Donc il y a ça, il y a ce partenariat, mais il y a aussi quelque chose de très important et qui va avec la politique multilatérale diplomatique d'Emmanuel Macron, c'est l'axe Indo-Pacifique. Et Jean-Yves Le Drian, il l'a rappelé hier soir, le positionnement Indo-Pacifique de la France. Il est déterminant. Il est déterminant pour plusieurs raisons. Il est déterminant d'abord parce que c'est toujours une présence française à l'autre bout du monde, hein, avec la Nouvelle-Calédonie, mais avec aussi un ensemble d'autres îles et archipels. Et puis parce que ça permet aussi de créer et de renforcer un axe qui est l'axe Paris-New Delhi-Canberra, qui permet de contourner les deux géants et notamment la Chine.
Un axe cher au président Macron, il l'avait annoncé ici d'ailleurs.
Il l'avait annoncé et puis Jean-Yves Le Drian, dans un entretien fleuve à l'Australian Financial Review, a parlé aussi de l'importance justement pour être non pas autonome, mais pour ne pas dépendre totalement du jeu du géant chinois, d'avoir cette espèce de route commerciale, d'échange universitaire, d'échange de richesses entre Paris, Delhi et Canberra. Donc pour Jean-Yves Le Drian, c'est vraiment danser sur ces deux pieds, à la fois la relation bilatérale France-Australie et l'axe Indo-Pacifique, qu'il est revenu ici en visite en Australie.
Et puis s'il danse, c'est de la danse traditionnelle bretonne, hein, étant président de la région bretonne de Bretagne également.
Exactement. Alors, mais je vais moi aussi quand même faire une petite j'allais dire critique, ou en tout cas un warning que Jean-Yves Le Drian a lui-même mis dans la relation bilatérale avec l'Australie. Dans cet entretien à l'Australian Financial Review, il a aussi expliqué que c'était important que l'Australie se mette aussi à jour des engagements environnementaux.
Oui, la fameuse COP de Paris, etc. Il y a plein de choses que l'Australie... Bon, on sait que niveau écologique, ce n'est pas non plus le top.
Alors, Jean-Yves Le Drian, il fait de la réalpolitik. Donc, il est conscient que, par exemple, la place de l'industrie minière, du charbon, elle est importante en Australie. Donc, on ne va pas tout réformer du jour au lendemain. Mais par contre, aussi dans le contexte où Donald Trump s'est lui-même retiré les États-Unis des accords sur le climat, lui, il insiste et il dit, voilà, il faut encore plus, à l'heure où aussi la Chine doit s'aligner avec ses règles de transparence, ses règles environnementales, il faut absolument que nous, on soit aussi d'équerre pour respecter ces normes-là, parce que c'est la position d'Emmanuel Macron, mais aussi parce que, pour des raisons très concrètes, si je prends par exemple la question de l'élévation du niveau des mers, c'est un véritable danger pour certaines îles et certains archipels français dans le Pacifique.
Oui, absolument.
Peut-être aussi un élément sur cette visite, parce que là, on a parlé de la relation bilatérale France-Australie et de cet axe Indo-Pacifique. Il faut quand même le dire hein, pour nos auditeurs que la raison première, ou en tout cas le prétexte, c'était la tenue de la seconde conférence internationale qui s'appelle No Money, No Terror. La première conférence avait eu lieu l'année dernière à Paris. Elle avait été initiée par le président de la République française, Emmanuel Macron. L'idée, c'est de réfléchir aux solutions pour contrer le financement du terrorisme international.
Alors, j'ai une question pour vous là-dessus. Il est venu en tant que ministre des Affaires étrangères, en tant que ministre de l'Europe. Est-ce qu'il représentait une certaine voix européenne aussi dans ces discussions, ou c'est vraiment une relation, encore une fois, franco-australienne dans ces colloques?
Vous le savez, Christophe, je vais vous répondre les deux. Il est venu effectivement avec sa casquette de ministre des Affaires étrangères et de l'Europe français, assister à cette conférence, encore une fois initiée pour la première édition par Emmanuel Macron, qui se déroulera l'année prochaine en Inde. Et c'est là aussi où c'est intéressant. On voit hein, Australie, France, Inde, hein, Paris, New Delhi, Canberra, l'axe Indo-Pacifique. Mais il vient aussi parce que Emmanuel Macron joue cette carte du multilatéralisme diplomatique. Donc il n'est pas mandaté par l'Union européenne pour venir, mais il vient évidemment avec tout le poids et l'importance qu'a la France et que veut avoir la France au sein de l'Union européenne pour les années à venir, avec la nouvelle commission, avec ou sans nos amis anglais.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être dites sur cette visite?
Alors, ce qui peut être dit aussi, peut-être d'un point de vue plus local, c'est aussi l'insistance qu'a eu le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, sur le tissu économique et les entreprises françaises qui sont présentes en Australie et notamment dans le Victoria lors de sa visite à Melbourne. On est à peu près à 120 entreprises françaises, qui est un nombre extrêmement important, et il est conscient, et ça fait partie aussi de ce, j'allais dire, de tous ces dégâts collatéraux, de toutes ces externalités positives plutôt, qu'il va y avoir beaucoup de besoins de savoir-faire français dans les domaines de l'infrastructure, du BTP et de l'énergie et de l'environnement, justement pour accompagner les entreprises australiennes vers une transition écologique plus propre. Donc il en a aussi profité pour porter, en plus de sa casquette de super VRP, de super ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, une casquette véritablement de représentant du savoir-faire français, industriel, qui s'exporte ici en Australie.
Order, parce que là, c'est maintenant, il est l'heure de parler du Brexit. Un podcast d'Europa Voice sans le Brexit de nos jours, c'est quasiment impossible. Et Order, la voix de John Bercow, l'ancien speaker du Parlement britannique, il va nous manquer.
Hein. Il va nous manquer.
Enfin, il va me manquer dans mes soirées.
Il va manquer à beaucoup de monde. Et effectivement, Christophe, John Bercow, ça y est, a rendu ses habits de speaker de la Chambre.
Et tout de suite, il a parlé à la BBC. Tout de suite, il a dit, j'ai dû être impartial pendant tant d'années. Et aujourd'hui, il a donné son avis sur le Brexit. Bon, on le savait. Déjà, il n'est pas du tout d'accord. Il pense que c'est peut-être l'erreur des 50 dernières années de la Grande-Bretagne en termes de politique extérieure.
Pour John Bercow, le Brexit, et je le cite hein, dans un entretien qu'il a donné à des confrères anglais, est la plus grosse erreur de politique étrangère depuis la guerre. Donc je crois que c'est assez...
Ouais, c'est clair.
Assez clair.
On le savait, mais là, officiellement, il y a des mots derrière. On savait qu'il avait cette position-là. On savait que, globalement, il n'était pas non plus pour le Brexit. Mais il a été quand même un super speaker du Parlement. Je pense que le siège va être très compliqué à remplir par son remplaçant, qui est d'ailleurs un travailliste.
Oui, c'est Lindsay Hall qui va le remplacer. Effectivement, hein, on l'a vu hein, pendant les débats du Brexit, mais de manière générale à la Chambre, le rôle du speaker, il est essentiel parce qu'il est là pour donner un ordre, coordonner le débat et que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc effectivement...
Malgré ce qu'on peut croire, ça a été quand même relativement ordonné.
Ah, ça a été incroyablement... En plus, avec un flegme et une ironie propre... aux Britanniques, mais ça a été un débat pour les enjeux qui vont avec ce débat et les conséquences, un débat assez finalement ordonnée, audible, il faut le dire aussi, hein, on est beaucoup, je crois qu'il n'y a pas que vous et moi, mais il y a beaucoup de nos auditeurs qui ont certainement dû suivre en direct via YouTube les débats à la Chambre. Effectivement, c'était quelque chose d'audible, et c'est aussi le rôle du speaker, c'est non pas de faire de la pédagogie, mais de rendre ces débats qui sont compliqués, qui peuvent être parfois techniques, de les rendre accessibles pour le commun des mortels.
Absolument. Alors, en Grande-Bretagne aujourd'hui, on l'avait dit, on l'a redit, on l'a re-redit, on l'a re-redit, ça reste, le Brexit, un problème britannique, de politique britannique. On y est, on est en plein dedans, c'est les élections générales. Le coup de départ, le départ a été donné pour ces élections. Les politiques sont lancées, on sait à peu près où on s'en tient, des deux, trois côtés qui sont... Enfin, en tout cas, on sait où seront les batailles par rapport aux partis principaux. Et clairement, on va parler des conservateurs. La peur des conservateurs, elle n'est pas forcément à gauche avec les Labour. Elle est plutôt à droite et bien à droite avec Nigel Farage.
Oui, en fait, la véritable crainte pour les Tories, pour les conservateurs, c'est que le parti, le Brexit Party de Nigel Farage fasse de l'ombre aux conservateurs. Et leur empêche de remporter ces élections générales.
Au la main,
exactement. Et donc, en fait, et c'est avec ça que joue Nigel Farage, c'est lui, en fait, il serait d'accord de proposer une alliance à Boris Johnson pour les législatives. Et d'ailleurs, c'est... J'allais dire,
mais c'est d'ailleurs, il lui a proposé une alliance, elle est ironique complètement. On sait très bien qu'elle ne sera jamais acceptée, puisque l'alliance, pour la rappeler, Nigel Farage, il a dit « Oui, je veux faire une alliance avec les conservateurs et Boris Johnson, si et seulement si ils retirent leur deal de Brexit », chose qui est inconcevable.
C'est inconcevable, et puis même, j'allais dire, c'est US, puisque Nigel Farage, il avait à son micro, il a une émission de radio, il avait à son micro le président américain Donald Trump, qui lui-même lui a fortement enjoint Boris Johnson de faire une alliance avec Nigel Farage. Donc où on en est de la politique, j'allais dire, locale purement britannique, de l'ingérence américaine dans maintenant quelque chose qui ne concerne plus le Brexit. Hein. Là, on parle des élections générales anticipées. On a une date, c'est le 12 décembre. Donc on est dans une situation complètement ubuesque où Boris Johnson, il va peut-être même devoir se justifier auprès du président américain de son choix de stratégie politique intérieure, de s'allier ou pas avec le Brexit Party de Nigel Farage. Mais encore une fois, et vous l'avez dit Christophe, c'est simplement pour brouiller les cartes, parce que premièrement, Nigel Farage, il propose quelque chose qui est complètement incompatible avec la nouvelle solution du Brexit avancée par Boris Johnson. Mais en plus, et c'est toute l'ironie du sort, c'est qu'avec le scrutin propre aux élections générales britanniques, c'est impossible que Nigel Farage ait des élus.
Ouais.
Parce que c'est... Il aura beaucoup de deuxième position, et il arrivera en deuxième position dans beaucoup de circonscriptions, comme ça a été le cas aux dernières élections. Mais comme c'est un scrutin, dites-moi si je me trompe, uninominal majoritaire, c'est le premier qui arrive en tête qui remporte la circonscription. Mmh. Donc en fait, c'est véritablement pour rajouter son petit grain de sel à ces élections-là, parce qu'il n'aura véritablement aucun membre, certainement, à la Chambre.
Et historiquement, il n'a jamais eu un membre, je crois, à la Chambre. Et ça a toujours été très compliqué pour les UKIP d'atteindre justement une place dans ce Parlement.
Oui, et il n'a jamais eu. Et puis, l'ironie sur, c'est qu'en fait, Nigel Farage, il est très confortable au Parlement européen.
Et il aime bien, hein, je crois.
Et il l'a dit, hein, il l'a dit, je serais certainement plus utile moi-même à sillonner l'Angleterre et à aider nos 600 candidats pendant ces élections que moi-même me présenter.
Il aime bien la cantine, c'est tout, vous inquiétez pas, c'est juste la cantine
ou noyauté de l'intérieur le système. Mais en tout cas, effectivement, c'est là la plus grande crainte des touristes, des conservateurs britanniques.
Ce qui est hallucinant dans ce débat, si je peux me permettre, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment une voix contre le Brexit qui réussit à émerger. Même les Labour, qui sont donc l'opposition, on parle encore une fois de peaufiner un deal ou de demander une rallonge de temps pour changer le deal. Mais on ne parle pas, il n'y a pas une voix qui s'élève, hormis les Lib Dem, mais eux n'arrivent pas vraiment à percer encore une fois dans le sentiment public pour cette voix purement anti-Brexit, pour un deuxième référendum, alors que dans la rue, on voit que c'est encore divisé presque 50-50.
Oui, et on l'avait dit, on l'avait mentionné lors d'une émission précédente, le problème aussi maintenant, Jeremy Corbyn a lancé sa campagne, la campagne travailliste, elle a été lancée il y a quelques jours de cela, dans une circonscription semi-rurale de l'Essex, qui est un choix très bizarre, mais pourquoi pas. Le problème de Jeremy Corbyn, c'est qu'il était absent véritablement, il était absent des débats et il était absent ces derniers mois. Il a joué la stratégie du pourrissement, de laisser finalement les Tories, excusez-moi l'expression, se démerder avec ce problème du Brexit. Et maintenant, il essaye de revenir. C'était la grande messe, il a fait un grand discours, mais ça va être très compliqué.
Oui, parce qu'il revient sur des idées de politique générale, de changer le monde. Mais dans toute son optique de changer le monde, il ne parle pas de changer la situation des Britanniques aujourd'hui.
Non, Jeremy Corbyn, en fait, il a une ligne politique, de stratégie politique qui est très claire. Il dit, voilà, le divorce qu'a proposé Boris Johnson à l'Union européenne, c'est une course, et je le cite, c'est une course à la dérégulation des normes sociales et environnementales. C'est un alignement sur les États-Unis. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire que des deux côtés, des Tories et de Jeremy Corbyn, on en est à invoquer le grand frère américain au sein de la campagne britannique comme une espèce d'aiguillon. C'est-à-dire, d'un côté, on dit que si le projet de divorce de M. Johnson reste comme il est, ça pourrait empêcher le Royaume-Uni de conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis. Ça, c'est la position si jamais il n'y a pas cette alliance Boris Johnson-Nigel Farage. Et de l'autre côté, on dit que, avec le divorce proposé par Boris Johnson à l'Union européenne, on est en train d'avoir un alignement du Royaume-Uni sur les États-Unis. Mais c'est intéressant Christophe, pourquoi ? Parce qu'il y a une réalité en fait qui est quand même sous-jacente à cette polémique-là et à ce grand frère américain, c'est qu'une fois que le Brexit sera effectif, le Royaume-Uni devra effectivement négocier des accords de libre-échange pays par pays. Et donc chaque accord de libre-échange qui sera négocié, ce sera une lutte. Ce sera des rames de négociation. On est bien placé pour le savoir avec ce qui se passe dans les accords libre-échange Union européenne-Australie. Et donc, c'est ça qui est intéressant, plus que, j'allais dire, l'ingérence du grand frère américain dans la campagne et ses élections générales anticipées. C'est de voir qu'en fait, une fois que le Brexit sera effectif, ce sera plus aussi simple de faire de la politique internationale et de la négociation pour le Royaume-Uni. Pour revenir à Jeremy Corbyn, donc, il joue la carte classique de projet de dérégulation et puis il agite le spectre de l'équivalent de la sécurité sociale, j'allais dire, du NHS, en disant évidemment, ce bijou, enfin ce trésor d'après-guerre britannique, si le Brexit, l'accord de Brexit reste en l'état, c'est aussi ça qu'on va brader. Donc,
mais le NHS était déjà au cœur des débats au niveau du Brexit. C'était marqué sur les bus, on donne 350 millions par semaine à l'Europe, donnons-les plutôt au NHS. C'était vraiment au cœur, mais c'est ce qui touche les Britanniques au jour le jour. Surtout ce qui touche les Britanniques peut-être un peu plus âgés aussi, parce qu'on a besoin du système de sécurité sociale sûrement un peu plus tard dans sa vie que quand on a 18 ans. Mais la réalité des choses, c'est qu'en fait, quand on voit l'orientation du débat, il ne faut pas se voiler la face. La Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne. Maintenant, le train est passé.
Ah oui, non, mais attendez, qu'on soit clair, la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne et le Brexit sera mis en œuvre. La question, c'est qui va porter ? Qui va être dans la locomotive et qui va mettre le charbon pour faire avancer la locomotive ? Est-ce que Boris Johnson va réussir ce que Theresa May n'a pas réussi à faire en convoquant des élections générales anticipées ? Ou est-ce qu'il va réussir à reprendre la main et finalement à ticker toutes les cases, et on en avait parlé lors de notre précédente émission, à ticker toutes les cases, c'est moi qui vous ai dit que le Brexit sera effectif, et en fait j'y ai réussi après avoir levé tous les obstacles que mes adversaires, à la fois dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, ont mis en œuvre. Mais effectivement, le Brexit, le Royaume-Uni va sortir, maintenant savoir qui sera dans la locomotive.
Absolument, affaire à suivre.
Affaire à suivre, Christophe.
Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.